Chapitre 4.
Les préférences, ça ne s'explique pas. C'est comme l'amour. Pourquoi lui et pas lui? Pourquoi elle et pas elle? Je me suis forcée pendant des années à aller voir ma sœur Danielle. Je voulais pas de Danielle, j'en ai jamais voulu. C'est à cause d'elle que j'ai dû arrêter l'école. Quand j'y pense aujourd'hui, je trouve que c'est terrible pour elle. Après son hospitalisation, elle a cessé de pleurnicher pour un rien. Elle n'est pas devenue intéressante, ça, non, mais abordable. Et quand elle me voyait débarquer, elle semblait contente. On a quand même fini par se sourire. Je faisais le même chemin qu'avant, mais sans Blaise. Cordonnerie, château, château, cordonnerie. Il m'avait offert son vélo dans le dos du marquis. Là où il allait, il n'en aurait plus besoin. Ce deux roues, un trésor pour moi, celui de la liberté. Je pouvais bouger partout dans Guignon et les environs. J'ai tout essayé avec ma sœur, lui apprendre à nager, à s'occuper de bijoux, mon cheval qui vivait une retraite paisible entre l'étable et le pré grâce à Blaise et surtout grâce à la marquise, les champignons, les arbres, les livres, la couture. Rien de ce que j'aimais ne l'intéressait. J'ai pourtant insisté. Danielle, je vais te lire une histoire. Elle répondait d'accord, s'asseyait à côté de moi, jamais sur mes genoux, m'écoutait 2-3 minutes, puis filait dans les jupes de la mère. Petite, Danielle vivait avec un chiffon à la main pour astiquer les cuivres. Elle adorait ça. En grandissant, elle s'est prise de passion pour la chasse et a commencé à accompagner les sbires du marquis. En résumé, ma petite sœur aimait faire le ménage et chasser. Qu'est-ce que tu veux faire, Danielle? Rien. On va se promener? Rien. Je finissais par en rire, nerveusement. Plus elle grandissait, plus elle ressemblait au père. Et lui ressembler, c'était pas un cadeau. Comme je suis méchante. Je m'écoute et je me trouve méchante. Tu dois te dire que ta tante était jalouse et méchante avec sa sœur. Jean écrivait une lettre par semaine à Georgette que je lui lisais en arrivant après son service du dimanche midi. Toujours les mêmes mots d'un ennui à mourir. « Bonjour maman, je vais bien, je mange bien, je dors bien, je travaille bien, mon école est à côté de l'appartement. Lyon, c'est une ville intéressante. Je t'embrasse, toi et ma petite sœur. » De temps en temps, il racontait ce qu'il avait mangé à un repas ou décrivait une des pièces de l'appartement, sans jamais parler de piano ou de ses leçons, comme si c'était tabou ou interdit. Que ressentait Georgette? Elle se figeait dès que je lisais les premiers mots. J'essayais de mettre le ton, et je galérais, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Georgette n'ouvrait pas les enveloppes de Jean. Elle les glissait dans un tiroir et attendait que j'arrive, alors qu'elle n'était pas analphabète. Manque d'intérêt, honte, pudeur. Peut-être les trois à la fois. Blaise m'a beaucoup écrit au début. Beaucoup. J'ai rangé ses lettres dans un des cahiers de ma collection du FCG, celui de la saison 1977-1978, je crois. En 2007, quand j'ai dû partir précipitamment de chez moi, j'ai caché tous les papiers importants dans ma collection. Faudra que tu regardes à l'intérieur de tous les cahiers, que tu les secoues pour voir ce qui tombe des pages. Et quand, à Guignon, ils finiront par faire un musée sur l'histoire des Glorieux, tu leur donneras ma collection. En attendant, garde-la précieusement.
November 25, 1961.
Ma chère Colette, je me sens seule. J'ai des idées noires. À l'internat, je partage une chambre avec 3 coturnes. Je hais cette promiscuité. Ils passent leur temps à reluquer des femmes à poil sur les magazines. Je fais semblant de rire et d'apprécier. J'ai appris à reproduire tous les gestes du garçon le plus bagarreur de l'établissement, un certain Jean-Claude. Ici, dès qu'on s'insulte, ça crache des PD à longueur de journée. Je sais que c'est paradoxal, mais je déteste les garçons. J'aurais voulu être normale, Colette. On aurait pu se marier et avoir des enfants, si tu avais voulu de moi. Et toi, comment vas-tu? Comment va Mokhtar, le père Aubry? Ta dernière lettre m'a enchantée. Te lire m'enchante. Raconte-moi Guignon, les gens, les cancans. Je reviendrai pour Noël, je l'ai promis à maman. Elle est de plus en plus malheureuse avec mon père. Je pense qu'elle finira par partir, même si chez les Sénéchals, on ne divorce pas. Je suis allé voir ton frère dimanche dernier. J'ai déjeuné avec lui chez les Lévitans. Elia et David ne sont pas loquaces. Ils ont toujours été comme ça. Une fois qu'ils t'ont posé trois questions en faisant des efforts incommensurables, ils cessent de parler. Ils vivent dans leurs pensées. Jean en est décontenancé. Je le comprends. Il faut pouvoir supporter le silence de ses hôtes. Mais son destin en a décidé ainsi. Il est encore si jeune. Nous aussi, Colette, nous sommes jeunes. Comme il est triste de constater que l'enfance est courte, qu'on a 15 ans et que déjà, on nous demande d'être et de vivre comme des adultes. Tu n'as pas eu une enfance heureuse, mais j'espère que tu garderas de beaux souvenirs, parce que tu les mérites. Pour revenir à Jean, je sais bien que c'est lui qui t'intéresse. Après le déjeuner, je suis allé marcher avec lui au bord du Rhône. Bien qu'il ait du mal à me croire pour l'instant, je lui ai expliqué que David Lévitan est un des meilleurs professeurs de piano au monde, que chaque enseignant possède sa propre méthode et qu'il doit lui faire confiance. J'espère l'avoir convaincu. Jean voudrait que l'apprentissage aille plus vite que la musique, mais c'est impossible vu le niveau d'excellence qu'il vise. Il faut qu'il apprenne à prendre son temps. Ensuite, ma Colette, je l'ai emmené dévorer une magnifique pêche-melba chez un glacier. Si tu avais vu ses yeux. Et je lui ai raconté l'histoire d'Elia et de David, celle que ma mère a été longtemps la seule à connaître. Après la guerre, maman s'est installée à Lyon pour aider la Croix-Rouge. Répertorier les déportés qui revenaient des camps, retrouver leurs familles, leurs appartements s'ils étaient propriétaires, les reloger, leur apporter le soutien dont ils avaient besoin. C'est comme ça qu'elle a rencontré ce couple. Il fallait que ton frère sache la vérité, la raison de leur silence. David et Elia se sont rencontrés très jeunes au conservatoire et se sont mariés en 1937. Ils ont été arrêtés en 1942, à Lyon. Elia était enceinte. Ils sont passés par Pithiviers quelques semaines, où elle a contracté le typhus. Elle a fait une fausse couche dans le convoi qui les emmenait à Auschwitz. Ce drame lui a sans doute sauvé la vie, car personne ne s'embarrassait de femmes enceintes, de vieux ni d'enfants dans les camps de la mort. Lorsqu'on a ouvert les portes de leur convoi, Elia s'est échappée et a supplié le premier SS armé qu'elle a vu de l'achever. L'officier lui a cassé le nez. David s'est interposé, il a eu droit au même traitement. Puis ils ont été mis en quarantaine, David avec les hommes, Elia avec les femmes. Ils n'ont pas été exterminés parce qu'ils étaient musiciens. David a intégré le mess des officiers comme pianiste, et Elia, l'orchestre des femmes qui jouait pour les nazis, les matones et quelques détenus. Cet orchestre regroupait des Polonaises, des Hongroises, des Belges, des Ukrainiennes, des Grecs. Elia était la seule chanteuse lyrique. On lui demandait n'importe quelle chanson et elle s'exécutait. Elle était devenue la boîte à musique de l'enfer. Elle a vécu dans de meilleures conditions que les autres et a adouci le quotidien cauchemardesque des femmes dans les baraquements. En 1944, elle a été déportée à Bergen-Belsen. Elle ignorait où se trouvait son mari. Dans la marche de la mort, certaines femmes lui ont demandé de chanter. Elle s'est exécutée. Les chants d'Elia Lévitan ont été un soutien dont on ne peut imaginer la puissance. Ils lui ont permis de résister et d'être prise en pitié par ses tortionnaires. On achevait les femmes, mais pas les rossignols. Ça aurait porté malheur dans le malheur. Ils étaient 60 000 survivants quand les Anglais ont libéré le camp en 1945. Et Elia était l'une d'entre eux. Lorsqu'elle est arrivée à Lyon, elle ignorait si David était vivant. C'est maman qui s'est occupée d'elle, dans un bâtiment prêté par les autorités françaises à la Croix-Rouge, Un bâtiment dans lequel il y avait de quoi se faire soigner, se laver, se vêtir, dormir. Le temps de retrouver sa famille. Mais David était sa seule famille. Elias s'alimentait uniquement quand ma mère lui donnait la béquée. Elle répétait inlassablement « Je ne suis pas morte en 1942, mais maintenant que je suis libre de mourir, laissez-moi partir, Eugénie. » Maman s'est particulièrement attachée à elle. J'ignore combien de jours ont passé avant que David soit à son tour rapatrié à Lyon. Ma mère a assisté à leur retrouvaille. Elia n'a pas reconnu son mari. Il avait pris 30 ans en 3 ans et perdu plus de 40 kilos. Les autorités leur ont restitué leur appartement réquisitionné par la police de Vichy et David a repris le piano, surtout l'enseignement. Elia, elle, n'a plus jamais chanté. Maintenant que Jean connaît le passé de ses hôtes, j'espère qu'il comprendra et acceptera mieux leur silence. J'entends les autres revenir. Je dois très vite cacher cette lettre, la mettre sous pli. Si quelqu'un tombe dessus, je suis mort. Écris-moi vite. Je t'aime. Blaise.
Je connais l'histoire d'Elia et de David Lévitan. Mon père me l'a raconté. Et ma mère s'est longtemps demandé si ses parents, son frère et sa sœur avaient pu les rencontrer en 1942, après leur arrestation. Mais elle n'a jamais osé questionner le couple, ni montrer de photos. Avant de mourir, elle m'a avoué qu'elle avait eu peur de leur réponse, d'apprendre qu'ils avaient été torturés ou exécutés les uns devant les autres. Lorsqu'on fait un cauchemar, on le fait seul. Dans les camps, le cauchemar a été collectif. Maman ne s'est jamais fait d'illusions sur les siens. Quand ils sont descendus du convoi, Raphaël et Agnès portaient chacun un enfant dans les bras et son père avait 55 ans. Papa et moi étions tous les deux à la maison. Je devais avoir 4 ou 5 ans. C'est un de mes premiers souvenirs. Il pleurait en jouant au piano quand je suis sortie de ma chambre. Lorsqu'il m'a vu, il a arrêté de jouer et m'a dit « À chaque fois qu'Elia me regardait vraiment, elle pensait à l'enfant qu'elle avait perdu. Si tu savais comme j'ai été soulagée quand Blaise m'a parlé d'eux, d'elle, comme s'il avait levé un voile noir posé sur ce couple. J'avais 11 ans. Les camps de concentration, personne n'en parlait. Il a fallu que la série Holocauste soit diffusée à la télévision à la fin des années 70 pour que je découvre les premières images. 10 ans après la libération des camps, il y a eu Nuit et brouillard d'Alain Resnais, mais je l'ai vu beaucoup plus tard. Il a éclaté en sanglots. Je n'ai presque jamais autant souffert qu'aujourd'hui. Il venait d'apprendre qu'Elia s'était éteinte à l'hôpital à la suite d'une embolie pulmonaire. Pourquoi je me souviens aussi précisément de ces mots? Qu'ai-je compris de ce qu'il m'a dit? Enfant perdu, camp de concentration, Alain Resnais, Holocauste, presque jamais autant souffert. Pourquoi presque, papa? C'était quand la dernière fois que tu avais souffert? T'adressais-tu à moi? À quelqu'un d'autre? À un fantôme ou un souvenir? Aujourd'hui, je réalise que la seule personne qui se soit vraiment occupée de mon père enfant, c'était Colette, ma tante. S'aimer, c'est aussi se mentir. Lorsqu'il a étudié à Lyon, à chaque fois que papa lui téléphonait chez Mokhtar, il lui racontait que ses hôtes étaient chaleureux, fantasques, et qu'il l'emmenait partout, au concert, au théâtre, au cinéma. Elia ne mettait un pied dans la rue que pour ses rendez-vous médicaux. C'est David qui faisait les courses. Et jamais il n'a emmené son élève nulle part.